France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous avez sans doute reconnu cette légende qui ouvre tous les albums d'Astérix depuis 66 ans. Et il paraît que nous avons tous quelque chose d'Astérix. Nous, Français, râleurs, mais aussi bagarreurs, ripailleurs. Emmanuel Macron ne parle-t-il pas de Gaulois réfractaires ? Mais Astérix est aussi universel. Près de 400 millions d'albums vendus depuis sa création, traduit dans près de 120 langues et dialectes. Pourquoi ce monument national est-il aussi universel? Au-delà d'un humour à plusieurs niveaux, que raconte-t-il de nous, de nos travers, mais surtout de nos valeurs? Il faut rappeler que ses deux créateurs, René Goscinny et Albert Uderzo, venaient d'ailleurs. Goscinny, issu d'une famille juive d'Europe centrale, et Uderzo d'Italie. Et ils ont su nous tourner en autodérision mieux que nous-mêmes. Astérix est chauvin, certes, mais pas nationaliste. Il défend son village, mais va filer un coup de main à grande gorgée de potions magiques à ceux qui sont menacés à leur tour. Alors si on a choisi d'en parler avec vous ce soir, c'est parce qu'Alain Chabat sort le 30 avril sur Netflix une mini-série animée en 5 épisodes qu'il a co-réalisé, Le Combat des Chefs, et que l'hebdomadaire Le 1 lui consacre un hors-série. Alors si vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, dites-nous ce que vous en pensez d'Astérix. On se parle en toute franchix ce soir dans Le Téléphone Sonne.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Gilda.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bonsoir, oui. Alors moi, Astérix, c'est absolument génial. Ça a été créé en 1959.
Oui.
Et si en 1959, on avait demandé aux Français quel personnage ils rêveraient d'avoir en personnage de BD, ils auraient certainement imaginé un personnage américain qui va dans les étoiles, qui est grand, qui est musclé, qui est séducteur de filles. Et en fait, Uderzo et Goscinny ont eu le génie de trouver un personnage qui était tout à l'opposé de ça, un petit Gaulois dans son village, moustachu, pas musclé du tout, qui
ne
voyage pas dans les étoiles et dans l'Antiquité, en 50 avant Jésus-Christ, voilà. Donc c'est un génie total. Et donc je me dis que si aujourd'hui on demandait à une IA, par exemple, d'inventer un personnage, de nous créer un personnage imaginaire, eh ben je pense qu'il n'arriverait pas. Cette IA n'arriverait pas au génie d'un Goscinny et d'un Uderzo.
Merci Gilda d'ouvrir cette émission. Pour en parler avec vous, Éric Fotorino, bonsoir.
Bonsoir Christelle.
Journaliste et écrivain, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, qui propose donc ce hors-série sur Astérix, sous-titré Une autre idée de la France. Nicolas Rouvière, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférences en littérature à l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste d'Astérix et de l'œuvre de René Goscinny. Vous lui avez quand même consacré 3 ouvrages. Vous êtes en direct depuis les locaux de nos confrères d'ici Drôme Ardèche. Et Yann Potin, bonsoir.
Bonsoir.
Historien et conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales. Et vous êtes en duplex des studios d'ici Périgord. On remercie nos amis qui sont en région. Gilda disait, il est à contre-courant. Qui veut répondre? Éric Fotorino, pour commencer.
Alors, oui, contre-courant, c'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé en 59, comme disait l'auditeur, créer un personnage comme celui-là qui serait aussi populaire. Il faut rappeler quand même que Uderzo, parce que Astérix est né d'abord dans la revue Pilote, hein, de Goscinny et Uderzo, ils se sont bien grattés la tête, ils avaient d'autres idées, puis finalement ce Gaulois, Uderzo signait Albert Uderzo.
Oui.
Donc il y avait ce petit côté quand même américain dans la signature, et d'ailleurs...
Mais il a raison Gilda quand il dit... Allez. L'époque, c'est vrai qu'on voulait
absolument
tous faire quelque chose qui ressemblait aux comics. Quoi.
Bien sûr. Et après, il y a eu toute une discussion à travers les albums de savoir si les Romains n'étaient pas, au bout d'un moment, une métaphore de la société américaine, de la puissance américaine, de l'Empire. Que l'Empire n'était pas celui qu'on croyait, celui de César qui prend les armes de Vercingétorix sur les pieds, mais du côté de ce que serait Trump. On pourrait imaginer qu'est-ce qu'ils auraient fait avec Trump.
Oh, mais moi, je pense que Trump sera l'objet d'un prochain album. Enfin, il y sera, en tout cas.
Moi,
il y figurera d'une manière
dieux
ou d'une autre. Nicolas Rouvière, à contre-courant, revendiqué effectivement.
Oui, Astérix, c'est la petite étoile, c'est l'anti-superstar, l'anti-super-héros, c'est une sorte de petit gnome contrefait et sans âge, et affublé d'un camarade qui est une figure d'enfant, un éternel enfant, encore à moitié dans la marmite, hein. Il en est à moitié sorti, quand on regarde la forme de ses bras. Donc c'est une paire héroïque tout à fait nouvelle, paradoxale, et qui est censée incarner, on va dire, les valeurs d'une nouvelle mythologie nationale pour rire et pour prendre le contre-pied de l'histoire.
Une nouvelle mythologie nationale, est-ce que vous diriez ça, vous aussi, Yann Potin, vous l'historien ?
Ah oui, tout à fait. D'autant, je dirais, a fortiori depuis que Astérix et Obélix se sont démultipliés sur les ondes et surtout sur les images du cinéma, sur différents supports, c'est évident que c'est un univers à part entière, même s'il est très ancré, en fait, comme Gilda nous l'a dit tout à l'heure, dans son temps, paradoxalement, c'est-à-dire dans la naissance de la Ve République,
oui,
et dans la fierté retrouvée de la puissance française, paradoxalement, à travers la Ve République et surtout le retour du général de Gaulle. En fait, Astérix et Obélix, certes, ont une puissance mythologique qui est lié, on va y revenir sans doute, à la question des Gaulois, qui travaillent le mythe national depuis le 19e siècle, assez tardivement d'ailleurs, mais il y a cette question fondamentale, c'est comment la France renaît de ses cendres, ou plutôt conserve ce trésor irréductible que le village gaulois incarne. Et en poupée russe, sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'Astérix et Obélix sont le couple indestructible de l'amitié qui fonde ou refonde la nation.
À ce moment-là de notre histoire, on a besoin d'un héros positif, Yann Potin.
Ah bah très clairement, puisque à ce moment-là, c'est la guerre d'Algérie.
On est en guerre d'Algérie, et oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
C'est l'effondrement d'un régime, la République est menacée. Et puis il y a la question de l'ombre de la résistance et surtout de la collaboration, la lumière de la résistance mais l'ombre de la collaboration qui n'a pas encore fait tout à fait refait surface, même si précisément c'est un héros de la France libre, le général de Gaulle, qui parvient à prendre le pouvoir au même moment. Hein. Mmh. Nous n'oublions pas la coïncidence chronologique extraordinaire entre la naissance d'Astérix et cette rupture politique sur laquelle nous vivons encore.
À ce moment-là, oui, encore. Allez, on continue, on retourne au standard. Bonsoir, Rama.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Je rassemble mes idées.
Allez-y.
J'avais laissé un message pour... bonsoir à tous, pardon. Car je pense que Astérix et Obélix ne sont pas du tout les héros des bandes dessinées, mais sont les témoins de leur époque.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Expliquez-nous.
Par exemple, la bande dessinée va nous expliquer les problèmes de l'administration dans les 12 travaux d'Astérix.
Ah oui.
Et va nous expliquer la résistance passive avec les Corses. Va nous parler des sectes avec le devin. Ils ne sont pas si présents que ça, même si on peut avoir de l'affection pour eux, évidemment, alors, non pas sexués, comme vous l'avez dit, parce que Obélix et Falbala, nous le savons.
Astérix, on lui connaît personne.
Bon, hein. Oui, fils d'Astérix, cela est.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et voilà, pour moi, ce ne sont pas les héros.
Alors, non mais c'est intéressant ce que vous dites. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, Nicolas Rouvière, vous considérez que ce sont des seconds rôles ou pas ?
Non, ce ne sont pas des seconds rôles, mais c'est vrai qu'Astérix dresse un tableau de la société française, en fait, des 50 dernières années, de façon anachronique, en fait, hein, en projetant dans une Gaule fictive reconstruite toutes les tribulations des années 50, 60, 70, hein, de notre société. Donc c'est devenu, en fait, au fil des générations, une sorte de miroir d'identification, de telle sorte qu'on projette aussi des choses et que les auteurs savent, évidemment, établir constamment des clins d'œil, des références avec l'actualité. Alors ça peut être le Tour de France, le PMU, les vacances en Espagne, le voyage scolaire à Londres. Enfin, on se nourrit de tout un folklore en fait touristique, d'une imagerie collective qui vient de la littérature, du cinéma, des mass médias, et qui font qu'à travers Astérix, on a le plaisir de reconnaître des repères, des stéréotypes collectifs. Mais on apprend aussi à jouer avec et à s'en distancier par le rire et à détromper les fausses évidences de qui on est et de qui sont nos voisins. Et cette petite mécanique, finalement, elle fonctionne par-delà les décennies et on peut arriver à nouveau à l'activer avec de nouvelles références qui font qu'on reconnaît des choses de l'actualité qui nous parlent.
Éric Fotorino, oui. Il parlait de miroir d'indépendance à l'instant, Nicolas Rouvière. D'identification,
oui.
Pardon.
Oui, oui. Alors, d'abord, je dois dire qu'on a la chance dans ce numéro du 1 spécial d'avoir Nicolas Rouvière et Yann Potin.
Et nous, on a la chance qu'ils soient avec nous ce soir.
C'est des éclairages très, très précieux. Alors, moi, je dirais deux choses. D'une part, et vous disiez tout à l'heure, Christelle, qu'il nous parle aussi des valeurs. Ce qui est formidable, je crois, et ce qui fait une des clés de la durabilité, de la longévité, c'est qu'il y a quand même une amitié très forte. C'est quand même deux copains, deux amis. Quand ils sont fâchés, c'est terrible. On les voit vraiment, ils sont malheureux, tristes comme les pierres. Il y a une idée que toujours on se réconcilie. C'est-à-dire qu'on peut se taper dessus, on peut s'engueuler, on peut... Bon, évidemment, il y a toujours force de Romains qui volent, et évidemment, cette apesanteur aussi, hein. Thomas Schlesser, d'ailleurs, l'historien de l'art, le dit très bien. Ce qui n'est pas tellement les coups qui sont marrants, c'est de voir comment les personnages
s'envolent,
comme s'ils étaient à l'hélium. Il y a une sorte de légèreté. Bon, il y a ça. Et puis, d'autre part, je laisse évidemment Yann Potin nous parler. Moi, j'ai appris beaucoup en l'écoutant sur le bouclier Arverne et Vichy et toute cette histoire-là. Mais je pense que dans les Trente Glorieuses, il y a deux albums, à mon avis, qui sont quand même majeurs pour expliquer et décortiquer. Il y a le domaine des dieux, c'est vraiment comment, finalement, l'immobilier...
C'est la crise du logement des années 60.
Et ça donne... Enfin, c'est hilarant. La zizanie, qui est quand même aussi quelque chose, on crée justement la division entre les Gaulois, mais l'autre dont je voulais parler, c'est Obélix et compagnie, parce que là ils introduisent la corruption. Comment on va acheter, les Romains vont acheter Obélix pour qu'il fasse plein de menhirs, ils vont faire monter le cours du menhir, les Romains vont se mettre à en faire, il y aura des faux, etc. Et c'est tellement une image du capitalisme dévoyé, qu'on est quand même dans une réalité, mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est quand même d'abord deux personnages, deux héros, au nez tout rond, avec des gros pifs, comme faisait Uderzo, et ça cette rondeur est pour beaucoup dans leur popularité.
Allez, on continue au standard avec Augustin. Bonsoir.
Bonsoir, oui.
Tu as quel âge, Augustin ?
J'ai 12 ans.
Eh bien, bienvenue. Merci de nous appeler. Alors, explique-nous ce que représente Astérix pour toi, Augustin.
Bah, pour moi, Astérix, tout d'abord, c'est 26 ans d'amitié entre deux hommes, Goscinny et Uderzo. Deux hommes qui, par exemple, ne partaient jamais en vacances l'un sans l'autre.
Oui.
Très proche, une amitié sans désaccord.
Oui.
J'aime la BD Astérix, tout simplement, pour son humour.
Qu'est-ce qui t'amuse
Ce qui m'amuse, c'est le fait aussi des fois, que ce soit dans les dessins ou dans les jeux de mots avec les prénoms, les dessins Astérix très cartoon, très contrebalancé avec César qui est très réaliste.
Oui.
Uderzo qui savait très bien d'ailleurs faire les dessins réalistes.
Oui.
Pour moi, Astérix, c'est quelque chose qui a réussi à me faire découvrir des passions.
Par exemple,
je ne pensais pas me découvrir et je lui dois beaucoup de choses aujourd'hui et que je lui dis merci tout simplement.
Qu'est-ce que tu as découvert comme passion avec lui ?
Par exemple, je me suis découvert des passions pour des sensations fortes. Par exemple, sans Astérix, je ne serais jamais allée au parc Astérix, je ne serais jamais découvert des passions de sensations. J'aime beaucoup aussi lire.
Oui. Tu les as tous lus ? Tu n'as que 12 ans, Augustin. Hein. Mais tu les as tous lus ou pas ?
Oui, je les ai tous. J'ai tous les albums d'Astérix. Et je les ai lus, relus et re-relus.
Et quel est ton préféré ?
Mon préféré, alors là...
C'est difficile comme question, je sais. Mais tu as l'air de tellement bien les connaître que je me permets... Parce que là, tu es un astérixologue averti à 12 ans, Augustin, quand même. Hein.
Si on peut dire ça, oui.
Eh ben, je crois qu'on peut le dire. Ça vous surprend. Merci, Augustin. Ça vous surprend, Eric Fotorino. Il sait tout.
Ah ben, je me dis que vos auditeurs, les plus jeunes, boivent de la potion magique avant de prendre le micro, parce que c'est extraordinaire, cette analyse. Et en effet, ces deux amis dans la vie que sont Uderzo et Goscinny, comme nous l'a dit justement Augustin, qui ne vivaient pas séparés, au sens où ils partaient en effet en vacances ensemble. Mmh. Et à un moment donné, il y a un texte de Goscinny que nous publions, qui est l'extrait d'une conférence qu'il a donnée au milieu des années 60, où il dit en fait, parce que les deux dessinaient au départ, hein, et il disait, quand on disait « mais qui êtes-vous ?», il disait « moi c'est l'autre ». Autrement dit, il y avait comme ça un jeu de miroir entre eux dont ils jouaient beaucoup.
J'aimerais qu'on parle de l'humour, parce qu'il y faisait allusion, Augustin. Nicolas Rouvière, vous êtes chercheur en littérature, vous avez beaucoup étudié les textes, si j'ose dire, hein, des albums d'Astérix. Ce qui marche au fond, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est aussi universel, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture.
Oui, bien sûr. Et puis, alors, ça commence par la pulsion, j'ai envie de dire, hein. Ces grandes bagarres, ces grands corps qui volent, qui sont en quelque sorte dématérialisés, qui modifient le rapport au corps en faisant des images qui rentrent dans des compositions d'ensemble. C'est quelque chose que je dirais d'anti-violent, en réalité, mais d'extrêmement jouissif. Et les enfants le perçoivent. Il y a une décharge, là, qui nous allège d'un rapport au corps qui serait beaucoup plus problématique. Mmh. Et puis ensuite, bah, ça passe par, évidemment, tout un jeu multiple de calembours linguistiques, de noms avec des suffixes qui nous renvoient, voilà, à des identités nationales stéréotypées, des références latines en pagaille.
C'est ce que j'allais dire, mais les références latines, ça marche encore aujourd'hui, alors que plus personne n'étudie le latin. Ou presque.
Oui, mais on peut apprendre grâce à Astérix.
Bah oui, au tempora formule.
On va apprendre que... Alors, on a le vieil unijambiste pirate qui est toujours délégué.
Il est génial.
Voilà, à ses formules désabusées sur le destin, la fatalité, etc. Ouais. Le pire rate à chaque fois. Donc, voilà, un exemple de gag, par exemple, qui a l'air complètement gratuit, qui devient un running gag d'album en album. Mais ces pirates sont des sortes de figures substitutives avec une sorte de chaîne qui part des Goths, donc des barbares, qui transitent par les Normands, puis qui arrivent vers les pirates. Et on a besoin de les faire payer à chaque fois, comme pour régler des comptes, peut-être avec l'histoire et avec une certaine histoire beaucoup plus douloureuse. On n'a pas parlé de la tragédie familiale du côté de la branche maternelle de René Goscinny.
C'est-à-dire
mais ben il a perdu trois de ses oncles à Auschwitz, qui ont a été arrêtés par la police française. Ses grands-parents sont morts très peu de temps après, dans leur fuite de la zone occupée. Et puis lui-même perd son père d'une hémorragie cérébrale quasiment en même temps. Donc il y a eu une double tragédie, là, qui s'est conjuguée, et qui fait que dans Astérix, quand on met en scène des barbares ou qu'on touche au père... La figure du père en est souvent soi-même une sorte de... dans une logique pré-barbare ou d'une barbarie latente. Mmh. Et je dirais que les pirates sont le dernier maillon de la chaîne qui vont payer pour tous les autres, en quelque sorte.
Ils payent, et ils payent de manière récurrente. Hein. Et ça aussi, ouais. C'est un des secrets de la réussite de ces albums, c'est qu'on retrouve des personnages et des situations... Voilà, Eric Fotorino.
Oui, bah, évidemment, le bar d'Assurance Tourix, d'ailleurs, qu'ils ont voulu mettre dans le domaine des dieux pour que les gens s'en aillent. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas. On l'attend, le banquet. Oui. Il y a la réconciliation. Mais en effet, en plus des pirates qui payent toujours, qui sont coulés, qui sont à la flotte, il y a ce pauvre Assurance Tourix qui est ligoté comme un petit marcassin.
Bonsoir, Armel.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Alors moi, j'ai une affection particulière pour Astérix. Je suis bretonne et il me fait beaucoup penser à ma famille. Il est déterminé, dynamique, mais aussi positif, solidaire. Il aime l'aventure, les festins bien arrosés. Donc ça nous parle à nous, les Bretons. Et puis c'est aussi un peu le copain qui nous venge, qui nous protège des forts qui nous veulent du mal, qui sont représentés par les Romains. Donc c'est vraiment un compagnon de longue date et qu'on apprécie encore même maintenant. Toute la famille et nous, les plus vieux, qui avons déjà maintenant 60 ans. Mmh. Donc,
Vous avez transmis à vos enfants
Tout à fait, on les a tous et on les relit régulièrement, ainsi que les petits-enfants qui commencent mais à 3 ans. Alors, ils regardent les images. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment une affection familiale.
Mmh. Merci beaucoup, Armel. Donc, breton, Astérix. Hein, il a une identité bretonne très affirmée. Yann Potin, vous qui êtes historien, avec Goscinny et Uderzo, le mythe gaulois est passé du Massif central à la Bretagne, quand même.
Voilà, exactement, dans l'imaginaire.
Il a un peu migré.
Il a un peu migré, effectivement, puisque c'est quand même pas pour rien que la série commence par, évidemment, la scène d'Alésiac, dont on ne parlera plus après, ou uniquement par le souvenir de Gergovie qui recouvre. Mais dans tous les cas, on est dans le Massif central. Et par ailleurs, Vercingétorix, Arverne, c'est pas du tout... tous les personnages s'appellent en X, en déclinaison d'une certaine façon de ce suffixe de Vercingétorix. Hein, c'est tout ça est une sorte de, et là pour le coup c'est pas du tout breton comme consonance, mais il y a eu ce jeu d'ancrage de la mémoire gauloise sur la péninsule bretonne, mais qui finalement en fait je crois n'est pas si présente, hormis les menhirs, hormis les mégalithes, donc qui n'ont évidemment rien de contemporains de 50 avant Jésus-Christ, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que la plupart de ces mégalithes, comme les alignements de Karnak, sont beaucoup plus anciens.
Oui, oui, oui. Ils
n'existent plus du tout au moment des Gaulois. Ça fait partie aussi des anachronismes rigolos.
Mais comment est-ce qu'ils jouent avec le mythe gaulois
De plein de façons. Bah, tout d'abord, par le fait même que ce mythe gaulois contient un paradoxe essentiel dès le début, c'est-à-dire dès le Second Empire, c'est-à-dire qu'il célèbre une défaite. Ou plutôt, il est indissociable de cette défaite d'Alésia, qui est une défaite malheureuse pour les Gaulois, mais qui est heureuse pour les Gallo-Romains, qui vont être en fait, puisqu'ils vont accueillir la civilisation romaine. Et c'est d'ailleurs, ça transparaît, les bienfaits de la civilisation romaine transparaît tout à fait dans la série. Et en fait, c'est un mythe qui vise à la fois à célébrer la force et la démesure des Gaulois quand ils étaient libres. Et c'est resté d'ailleurs à travers les gauloiseries, les paquets de gauloises, tout ce qu'on veut, le rugby et le bouclier, tous les boucliers du monde. Cette espèce d'exaltation de la force qu'Obélix incarne aussi d'ailleurs.
Oui.
Et en même temps, la raison et la civilisation, avec ses dérives capitalistes, immobilières, on l'a dit. Or, le mythe gaulois au XIXe siècle, tel qu'il a été porté notamment par Napoléon III, et ensuite dont la République l'a adopté, ne l'oublions pas, il vise à laïciser l'origine nationale. Hein, puisque c'est une façon de dire, c'est pas Clovis, c'est pas la chrétienté qui a fait la France, c'est la France existait avant, ou préexistait avant, à travers les Gaulois. Et donc Vercingétorix apparaît comme évidemment un des fondateurs de ce... Mais c'est un fondateur qui, justement, accepte la défaite pour que son peuple, finalement, se métisse avec les Romains. Et en fait, le vrai, ce qu'on célèbre en général à travers le mythe gaulois, c'est la civilisation gallo-romaine. D'ailleurs, je suis à Périgueux, à Vézouna, vous voyez, c'est le cœur exactement de la civilisation gallo-romaine dans la région des Pétrochores. Donc finalement, il y en a partout, des gallo-romains et des gaulois aussi, et c'est sans doute aussi ce qui fait... Alors certes, madame a dit tout à l'heure que ça fait penser aux bretons, mais en fait, je crois que tous les régionalismes, ça participe du succès d'Astérix. Hein.
Oui, oui, parce
qu'ils... identités régionales...
Ils sont passés partout, quand même.
Ils sont passés partout.
On a tous été servis.
Partout.
Oui.
Voilà, tout de suite.
Absolument. Bonsoir, François-Xavier.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, je voulais dire ceci. J'ai entendu dire tout à l'heure que Astérix était chauvin, et pas nationaliste. C'est vrai, je partage cette idée dans la mesure où il y a un aspect d'autodérision, d'autocritique. En revanche, par rapport à notre héros si connu, si ce n'est plus, Tintin, il est beaucoup moins universaliste. Tintin représente un humanisme universel, très détaché d'un pays et même de l'Occident, n'est-ce pas? Peut-être parce qu'il appartient à un petit pays, la Belgique. Voilà, je voulais soumettre cette réflexion.
Eh bien, vous la soumettez à Eric Fotorino, cette réflexion.
Oui, alors bon, ça peut se discuter, parce qu'effectivement, on voit quand même que les héros à avec le druide, hein, à Panoramix, qui fait quand même des prodiges, comme il le dit dans Astérix et Cléopâtre, notamment, ils vont quand même au contact de l'autre. Alors, ils se moquent des autres, mais ils viennent toujours au secours des plus faibles. Il va sauver ce pauvre petit architecte dans Astérix et Cléopâtre qui est pressurisé, qui ne sait pas comment il va s'en sortir pour faire le palais de Cléopâtre. Mais on les voit quand même aller aussi en Corse, en Espagne, chez les Belges, chez les Helvètes. Alors vous me direz, c'est pas le grand monde de Tintin. Mais Tintin, là où j'aurais plus de mal de dire il est universaliste, c'est que on a beaucoup parlé de certains albums d'Hergé, de Tintin au Congo notamment, oui, etc., où il y avait beaucoup de stéréotypes de l'époque, hein, on ne va pas faire d'anachronisme. Donc je ne suis pas si sûr qu'ils soient moins universalistes que Tintin, mais ils le sont d'une autre manière.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en dites, Nicolas Rouvière ?
Je crois qu'Astérix est complètement universaliste pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, on a quand même une petite démocratie locale qui a l'air anarchique en apparence, mais qui lutte contre un empire global. Qui essaye de le conquérir militairement et de l'uniformiser culturellement. Et en fait, on voit que la fiction Astérix met en scène différentes sociétés, micro-sociétés. On a un dictateur, César, qui affaiblit le pouvoir du Sénat. On a une théocratie avec une déesse, avec une reine Cléopâtre qui se prend un petit peu pour une déesse. On a un régime pré-totalitaire qui est celui d'Ego, avec des références évidentes à l'hitlérisme, au militarisme prussien, etc. Et en fait, on peut reconstituer une sorte d'histoire politique, en fait, des fondements du lien collectif. Et Astérix pose toujours la question des frontières entre la civilisation et la barbarie. Mmh, mmh. Les autres sont toujours les fous, les autres sont toujours les barbares. On est toujours le barbare de l'autre parce qu'on se méconnaît, en réalité. Et chacune des aventures nous apprend à découvrir l'altérité culturelle. Et Obélix, c'est exactement ce cas de figure, parce que à la fois c'est un enfant égocentré, mais c'est aussi le représentant de l'ethnocentrisme. Ils sont fous ces Bretons, ils sont fous ces Ibères, oui, ils sont fous ces Helvètes.
Ils sont fous tous les autres, en fait.
Voilà. Et il doit apprendre petit à petit quelque chose de l'autre, quelque chose de l'altérité. Et il ramène toujours des choses de ses voyages. Mm. Et il essaye d'apprendre la langue de l'autre. Il fait des essais, des erreurs, etc. Et ensuite, cet apprentissage. Et mais derrière Obélix, il y a aussi la question de la frontière entre la raison et la déraison, voire la raison et la folie. Donc là, on a, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, on a vraiment deux branches qui nous entraînent vers des questions universelles.
Mmh. Mais est-ce que, à votre avis, c'est une des raisons du succès mondial d'Astérix ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça marche très bien chez nous, mais on en est presque à 400 millions d'albums vendus. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est un événement, mais c'est à chaque fois 5 ou 6 millions d'albums qui sont vendus quand même.
Alors le succès, c'est encore autre chose. Et il est frappant, par exemple, de remarquer que Astérix est souvent traduit en dialecte, en souabe, en bavarois, etc. Il faut avoir son Astérix dans la langue locale. C'est devenu un symbole identitaire par rapport à une culture englobante. Donc,
c'est la BD la plus traduite dans le monde, Eric Fotorino.
Oui, même au-delà de Tintin, pour le coup. Moi, je souscris à ce que dit Nicolas Rouvière à l'instant. Moi, ce qui me frappe, c'est la démesure aussi. On a publié là une affiche d'Astérix et Cléopâtre, donc c'est pas un poster, c'est une affiche, elle est quasiment aussi grande que nous. Et qu'est-ce qu'ils disent nos deux héros, non pas Astérix et Obélix, mais Goscinny et Uderzo, 14, pour se faire cette plus grande aventure qui n'ait jamais été dessinée, 14 litres d'encre de Chine, 67 litres de bière ont été nécessaires pour sa réalisation. Donc c'est le côté un peu fou. Ils n'attendaient pas un tel succès, ils auraient été dépassés par ça. Mais au départ, il y a une sorte d'énergie qui est communicative. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Astérix, c'est généreux. Et je crois que cette générosité, derrière l'amitié, derrière la réconciliation, derrière la trame historique, je pense qu'elle est contagieuse. Et c'est pour ça aussi que dans le monde entier, on s'arrache les aventures du petit Gaulois.
Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Rennes.
Oui, tout à fait. Je voulais poser une question à vos invités par rapport à la place de la femme dans la BD. Je trouve un petit peu dommage que ça ne soit pas plus mis en valeur parce qu'elle est soit représentée comme étant belle et stupide ou bien hystérique et autoritaire. Et à l'heure où on essaie de rééquilibrer cette lourde question du genre, j'aurais aimé savoir s'il était envisageable dans les albums futurs de donner à la femme un autre rôle.
Mmh. Quelle est la représentation des femmes dans Astérix, Nicolas Rouvière ? Vous êtes d'accord avec ce que dit Camille ?
ce qui est
ou belle et stupide, ou hystérique et autoritaire ?
Alors oui, l'apparition des femmes est tardive et elles apparaissent souvent frustrées, souvent ayant des velléités de pouvoir par compensation du rôle secondaire qu'on leur donne. Elles aimeraient que leur mari soit l'homme le plus important du village, etc. Mais en fait, Goscinny, qui était quelqu'un de très libéral, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de se moquer du traditionnalisme patriarcal de la France moyenne. Et donc, plus les femmes sont représentées comme frustrées d'être à chaque fois reléguées aux tâches ménagères, plus ça crée du conflit, des conflits de couple, et plus ça devient matière à rire, en fait. Mm-hmm. Et donc, je pense qu'il faut effectivement voir qu'elles occupent une place secondaire, qu'elles n'étaient pas prévues au départ tellement dans le système, parce que les auteurs ont neutralisé la question du désir et de l'érotisme, pas seulement à cause de la loi de censure de 49, mais parce que quand on met en scène une petite utopie villageoise, c'est compliqué d'introduire la question de l'érotisme comme facteur de dissension. Et donc, le rôle va s'affirmer progressivement. Mais je veux rassurer notre auditrice, dans Astérix et le Griffon, de Ferry et Conrad, la répartition genrée des rôles est totalement inversée, car les femmes sont les guerrières, dans les pays du Grand Est, Grand Froid, et les hommes sont relégués aux tâches ménagères. Donc, et en fait, on le lit et ça nous semble tout à fait normal, tout à fait naturel.
En fait, il colle toujours. Il colle toujours à l'époque, et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut souligner chez ceux qui font Astérix aujourd'hui, c'est-à-dire Conrad et Fab Caro, par exemple.
Mm-hmm.
Hein, vous confirmez, Nicolas Rouvière.
Oui, il y a une réactualisation, mais en fait, qui reste quand même fidèle au fond de valeur global de la série. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper sur un caractère censé être misogyne d'Astérix. Je pense que ça n'est pas le cas et qu'en fait, on se moque tout simplement. Je veux dire, quand les Gaulois ventripotents, les hommes, pensent qu'à baffrer, rire, boire, pendant que les femmes font tout le boulot à côté et qu'il y a une séparation des lignes masculines et féminines, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et c'est un sujet à rire pour les auteurs.
Éric Fautorino.
Oui, on le voit aussi avec Bonne Mine qui quand même malmène son mari de chef à Raccourcix. Et puis Cléopâtre,
qui est un peu rustique.
César, il est un peu tremblant quand même devant Cléopâtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'en effet, globalement, les femmes peuvent apparaître comme reléguées. Et en effet, ça correspond à l'époque. On ne peut pas faire d'anachronisme. Et je pense qu'il y a une volonté chez ceux qui ont repris le scénario et le crayon de remettre quand même un niveau d'existence des femmes peut-être plus important.
On repart au standard, accueillir Angèle. Bonsoir Angèle.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Vous avez quel âge Angèle ?
J'ai 15 ans.
15 ans. Bienvenue Angèle, lectrice d'Astérix.
Oui, moi Astérix, c'est un souvenir que j'associe à mon père parce que parfois, quand on était petit, il nous en lisait un à mon frère, ma sœur et moi. Et pour moi, ça avait la même valeur que de regarder un film, parce que mon père savait donner vie à tous les albums, parce qu'il savait faire tous les accents, et pour Astérix, c'est très utile, accents belges, espagnols, corses. Et on a grandi maintenant, on n'en lit plus trop, mais on se refait encore les répliques en voiture, au dîner, pendant les balades, et on en rigole encore. Et donc pour moi, Astérix, c'est un lien entre mon père, moi, mon frère, ma sœur, ma mère. Donc pour moi, c'est vraiment ça.
C'est un membre de la famille, en fait.
C'est ça.
Ben merci pour votre témoignage, Éric Fautorino.
Ben, c'est très touchant, parce que je pense que les auteurs, ils voulaient ça, ils voulaient créer du lien, ils voulaient que ce soit une histoire populaire qui puisse se partager, et en effet, entre des adultes et des enfants. Quand vous prenez cette scène du devin, où il y a une référence à la leçon d'anatomie de Rembrandt, et en même temps, le clin d'œil d'Astérix, c'est pour dire aux enfants, t'as vu, le devin, il est nul, c'est un imposteur. Donc voilà, ces deux degrés font qu'on peut le partager en famille.
Ben justement, on a beaucoup de messages sur l'appli France Inter. On a Cécile qui dit « Mon fils de 6 ans a découvert la lecture avec Astérix et Obélix. Nous avons trouvé des volumes dans une brocante. Il ne lit que ça et découvre l'histoire de la France et de l'Europe. Et nous, on découvre la BD qui est actuelle. » Sylvain, quelle merveilleuse idée de thème ce soir. Dans ce monde de brutes, ça fait du bien. « J'ai 54 ans, dit-il, j'ai lu tous les albums. Astérix et compagnie, c'est la vraie fraternité et tellement d'empathie pour les autres. » Emmanuel, Astérix, les plus gros fous rires silencieux de mes lectures, j'ai commencé à les lire à 7 ans. Le bonheur de les relire à plusieurs âges pour découvrir de nouvelles références. Ça, c'est vrai, Nicolas Rouvière. C'est différents niveaux de lecture. C'est toujours un plaisir renouvelé.
Oui, complètement. On a à la fois un petit chauvinisme qui nous flatte parce qu'on réécrit l'histoire pour rire et en même temps on arrive à se distancier de tous les clichés, des stéréotypes identitaires qu'on peut avoir sur soi et sur les autres et en même temps on va aussi avoir une critique universelle des comportements humains, de la violence brute, de l'égoïsme, du repli sur soi. Et ça, ce sont vraiment des valeurs universelles qui passent par le rire, avec une très très grande fantaisie, une très grande inventivité des auteurs, aussi bien iconiques que verbales.
Et on va conclure cette émission avec Mehdi, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde.
Et dites-nous pourquoi vous aimez tant Astérix ?
C'est un peu dans la suite de ce que vous dites là, et la petite jeune de 15 ans là, qui est exactement pareil dans l'émotion, c'est plus dans l'émotion. On a grandi avec ça, mon père nous lisait pas, enfin on a appris à lire, il nous le mettait dans les bras, et puis oui, on a appris à lire avec Astérix, c'était en Algérie, dans les années 70-80. Et on l'a lu à tout âge, et à tout âge on apprenait quelque chose, on comprenait de nouveaux jeux de mots. Maintenant, ça, je le relis, ça me rappelle mon père, cette période-là, c'est un peu Madeleine de Proust.
C'est intéressant ce que dit Mehdi, c'est une petite Madeleine de Proust, finalement, Eric Fotorino, Astérix.
Ben oui, c'est ça qu'on avait en tête, je crois, même une grosse Madeleine, parce qu'on a envie de la dévorer, un peu comme Obélix dévore des sangliers. Et c'est vrai que cette manière de rester dans l'enfance, tout en abordant des problèmes graves, je pense que c'est la magie des aventures d'Astérix.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, merci Eric Fotorino, merci à Nicolas Rouvière et à Yann Potin qui était à distance avec nous. Merci à vous tous de nous avoir expliqué pourquoi vous aimiez tant notre petit guerrier gaulois.